Merci d'être encore là après une longue journée et déjà une conférence en fin de journée. Je vais essayer de faire pas trop long parce que les journées sont longues. Et puis pour les questions, je ne tiens pas particulièrement aux questions, non pas que j'aime pas être contredit, mais je pense qu'on peut se voir et parler autour d'un verre quand on veut, donc on ne va pas se poser des questions formelles après une conférence. Donc je préfère qu'on se parle informellement. Comme ça, dans les couloirs, en passant. Ce sera bien plus sympathique. Le titre de cette conférence est un peu curieux parce que j'ai jamais entrevu l'idée de parler de ma musique à partir de ça, entre liberté et contrainte. C'est quelque chose qui m'obsède, comme beaucoup de compositeurs. Mais en fait, c'est venu du contexte. Ici, je me retrouve avec deux camarades compositeurs, soit Oscar ou Unzouk, qui n'ont pas peur de récupérer des choses. On a écouté la conférence d'Oscar hier, on s'est aperçu qu'il assumait, et je le savais avant de venir, qu'il assumait la liberté qu'il prenait, qu'il assumait le fait de faire des références au passé, s'il en avait besoin, ou à d'autres musiques modernes d'aujourd'hui, etc. Donc ce phénomène, enfin cette idée de la liberté qu'on peut prendre en composant, à plein de niveaux d'ailleurs, parce que c'est ça que je voudrais montrer, est quelque chose qui correspond aussi à ce dont on parle depuis quelques jours, même pendant l'entretien qu'on a eu avec Claude Samuel il y a deux ou trois jours. Alors ça, c'est un premier point. Le second point, c'est qu'il se fait que je suis en train d'écrire un spectacle sur un livre de Georges Perec, qui est un écrivain français que vous connaissez peut-être pas tous, puisqu'il est très français. Et Georges Perec est l'un des écrivains qui s'est, en France, complètement polarisé sur l'idée de la contrainte. Il y a un livre très connu que vous devez peut-être connaître, d'ailleurs, qui s'appelle « La disparition », où la contrainte était la disparition du « e ». Il n'y a plus de « e » dans le texte. Ce livre, d'ailleurs, a été, de façon très rigolote, traduit en espagnol. Il n'y a plus de « a ». J'ai une version en allemand et il n'y a plus de E non plus. Ce qui est une sorte d'imbécilité, puisque traduire un livre dont la résultante est une musique absolument magnifique, parce qu'en fait ce livre est une musique. Oscar parlait de ça hier, des musiques qui pouvaient dire des choses ou pas, et puis des livres, des textes qui pouvaient être de la musique. Les textes de Perec sont de la musique parce que la contrainte induit un son. Et donc c'est un écrivain pour ça qui m'est très cher, mais pas que pour ça. Il m'est très cher aussi parce que c'est un écrivain qui a un certain recul avec les propres opérations qu'il met en place. À la fois, c'est très complexe, à la fois, c'est très contraint. Si vous lisez La vie, mode d'emploi, qui est un livre où il faut prendre son temps parce qu'il est vraiment très tordu, celui-là. Mais si on lit La disparition, on sent qu'il y a un réseau de contraintes énormes, notamment cet abandon de la voyelle E, mais il y a un humour décapant du début à la fin. C'est-à-dire qu'il y a un genre d'autodérision de la part de l'auteur permanente. D'ailleurs, les E manquent et on sait Perec qu'il y a deux E dans son nom, par exemple. Il y a un personnage qui s'appelle Un Barbu en français, il n'y a pas de E dans Un Barbu en français. Et le barbu, c'est l'écrivain qui fait disparaître ses personnages les uns après les autres. Et donc, on s'aperçoit que les personnages qui disparaissent dans ce livre ne sont autres que ceux que fait disparaître l'écrivain en écrivant plus sur eux. Donc, il y a toute une mise en abîme permanente qui existe dans le livre, qui fait partie de moi, ce qui me touche prodigieusement quand j'écris de la musique. Et donc, le spectacle que je suis en train de finir, parce qu'il reste 2-3 minutes de musique à écrire, et d'ailleurs qui, pour l'anecdote, mais qui n'est pas une anecdote tout à fait, sera chanté entre autres par Donatienne, c'est pas un opéra, je sais pas trop comment on peut appeler ce truc-là, c'est du théâtre musical. Et j'ai pris le livre Espèce d'espace qui a été mis à toutes les sauces, en tous les cas pour ce qui concerne son titre. On s'est servi de son titre dans plein de situations. Et là, j'ai décidé de prendre le livre du début à la fin, de le réduire, d'en faire un genre de livret possible, de présenter ça à la famille Pérec qui est d'accord, donc je touche du bois, ça se fera. Et d'essayer de jouer justement avec cet aspect. Contrainte, liberté, contrainte, liberté, contrainte, liberté, qu'il y a dans ce bouquin qui est absolument incroyable. Donc, c'est d'autant plus important quand on travaille sur un texte qu'on se rend bien compte de ses propres mécanismes personnels. C'est-à-dire, je me suis aperçu, et si je parle de ce sujet-là aujourd'hui, je me suis aperçu à quel point j'étais obsédé par ce passage de la liberté à la contrainte. Je m'en suis d'autant plus aperçu que je travaillais sur le texte d'un écrivain qui, lui, a résolu son problème de façon très intelligente. Et en lisant ce livre, en faisant plus que lire, puisque j'ai réduit, j'ai même l'impression que ce livre, je l'écris maintenant quand je lis la nouvelle version. Je me suis accaparé, comme nous faisons, nous, compositeurs, nous pillons les livres des autres pour les mettre en musique, ou pour les mettre en musique, c'est un vilain mot, mais en tous les cas, pour faire de la musique. Et j'ai l'impression que j'ai appris beaucoup sur ce qui pouvait être de l'ordre de la liberté, de la contrainte en ce qui me concerne. Alors évidemment, vous verrez que ce que j'appelle liberté dans ma cuisine personnelle, ce sont des petites libertés que je m'octroie parce que j'ai une tendance à l'angoisse et à la contrainte permanente. Mais en attendant, j'essaie quand même de toujours trouver une porte de sortie à ce qui serait quelque chose de trop froid dans la façon de travailler avec les contraintes. Il se fait que, pour parler un petit peu de la façon dont j'ai bossé, j'ai travaillé dans ma vie, il se fait que j'ai travaillé à l'IRCAM il y a très longtemps, à une époque où les machines étaient très peu commodes, où le calcul était très long, et je rêvais déjà d'écrire des musiques qui soient toutes contraintes, return. Et hop, laissons la machine faire. Et je partais du principe que si le programme était bien conçu, la pièce devait être belle et bien conçue. Ce qui était un rêve de jeunesse terrible. Et je me rappelle des grandes réunions qu'on avait avec Pierre Boulez, à qui je parlais de ça en 88, et qui me disait « mais c'est totalement stupide ». Et il tombait de son piédestal, parce que j'avais imaginé quand j'étais jeune que Pierre Boulez lui-même aurait rêvé d'écrire une pièce toute contrainte. Mais ce n'est pas vrai du tout. C'est un grand improvisateur. Et donc, il ne comprenait absolument pas cette chose-là. Et c'est plutôt avec des gens comme Gérard Griset et Tristan Muraille qui sont des amis, enfin Gérard était un ami, il reste un ami, de toute façon c'est pas le fond du problème, qu'on a pu parler de ce genre de choses plus facilement parce qu'ils se posaient ce questionnement, c'était un questionnement permanent dans leur travail. Et pour la petite histoire aussi, j'avais 10 ans de moins que Gérard et Tristan, et donc j'ai travaillé un petit peu avec Tristan, c'était pas un professeur, mais on a beaucoup échangé sur ces idées-là, sur comment organiser par computer ou par contrainte. Et c'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs, hein. Les contraintes et travailler avec un ordinateur, on peut en parler. Il y a des programmes à contraintes et des programmes où on travaille par des réseaux de fonctions qui ne sont pas automatiquement des contraintes, on en parlera au fur et à mesure. Et le sous-titre de ma petite conférence aujourd'hui, c'est pompeux, la conférence de mon petit exposé, c'est entre le délire et la structure. Et ça vient d'une phrase de Griset que je trouve assez sympa, qui dit « la musique se situe entre le nombre et le drame, entre le délire et la structure ». Je crois qu'il résume assez bien la position dans laquelle nous nous trouvons, nous compositeurs, quand nous essayons de mettre en place des opérations. C'est-à-dire que si nous calculons tout ce que nous voulons mettre en place, qui est une tentation qui appartient beaucoup à l'avant-garde et dont j'ai hérité, moi, dans ma génération en tous les cas, et dont j'ai du mal à me départir parce que je fais partie d'une génération, il faut accepter de faire partie d'une génération. J'ai 56 ans, je vis avec mon background personnel et je vis bien comme ça. Je me rends compte que si je calcule tout, et ça m'est arrivé dans des pièces comme une pièce que j'ai faite tout entièrement avec Open Music, je suis très peu satisfait du résultat. Car ce sont des pièces raides, square, coincées, pas très agréables au niveau dramatique. Là, on peut dire que le nombre, il y en a, du drame, il n'y en a pas beaucoup, et du délire, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc, je me suis confronté à ce problème-là très rapidement. D'un autre côté, j'ai essayé aussi d'improviser, de jeter des choses, comme on peut le faire tous quand on a envie de le faire, simplement pour retrouver un genre de souffle primal comme ça, et je m'en rends compte que c'est pas une chose simple parce que dans ces cas-là je n'aime pas ma musique, je me sens totalement étranger à l'objet que je suis en train d'écouter. D'ailleurs je vous passerai un extrait d'une pièce de violoncelle que j'aime bien maintenant, qui fait partie d'une des pièces que j'aime bien dans mon répertoire, et il est rare d'aimer bien sa musique, vous en savez quelque chose, c'est difficile d'accepter son travail, et j'aime bien cette pièce parce qu'elle me dépasse, parce qu'elle est assez improvisée, je ne la comprends pas d'une certaine manière. Et la première fois qu'on me l'a jouée, j'ai trouvé très très emmerdante, j'ai trouvé très boring, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette musique. Et il se fait que je me suis habitué à cette pièce, Je l'ai analysé par la suite pour des violoncellistes qui me l'ont demandé, et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose d'improvisé, parce que malheureusement, nous vivons avec une culture musicale personnelle, et que même quand nous essayons d'improviser les choses, il reste des structures, il reste des choses que nous connaissons et qui sont, dont on ne peut pas se débarrasser aussi facilement qu'on veut bien le dire. Et je voudrais aussi reparler de la phrase de Griset, parce que quand Griset dit « la musique se situe entre le nombre, le drame, entre le délire et la structure », il ne dit pas exactement ce que je suis en train de dire en ce moment, que la musique se situe entre liberté et contrainte. Il ne dit pas ça tout à fait. Il dit que la musique n'existe exactement que lorsqu'il y a une plus-value au calcul, en tous les cas, au système des opérations. C'est cette plus-value, c'est la mise en place d'une dramaturgie, c'est aussi le délire. Ça, c'est une plus-value. Mais j'ai employé cette phrase volontiers pour ce que je suis en train de dire aujourd'hui, parce que cette plus-value ne peut exister que dans la mesure où on accepte une forme de liberté. Le délire ne peut arriver que si on accepte de se faire prendre par ça. Et on ne peut absolument pas organiser le délire comme on peut organiser les opérations. Organiser le délire, ça peut se faire dans les structures, mais la musique restera structurale et calculée. Donc, cette part de délire, qu'il y a chez Gérard Griset d'ailleurs, les espaces acoustiques sont une pièce de délire, on peut dire, c'est un cycle délirant au sens strict. Cette part de délire, je pense qu'on ne peut l'obtenir. Moi, ça a été très difficile pour moi, j'ai mis des années à accepter de me faire envahir par quelque chose que je ne peux pas contrôler. Et donc, c'est toute cette espèce de contrôle qu'il y a entre ce qu'on veut écrire parce qu'on l'entend, et ce qu'on veut écrire parce qu'on ne l'entend pas et qu'on est obligé d'inventer des opérations pour écrire ce qu'on n'entend pas. Qu'entendons-nous et que voulons-nous entendre et que voulons-nous écrire et que pouvons-nous écrire directement? Et il y a dans cette dialectique quelque chose qui me fait penser qu'on peut faire de la musique à cette condition-là, qui est difficile de faire de la musique en disant « je me passe de tout calcul préliminaire ». Voyez dans le mot « calcul » pas quelque chose d'horrible. Le calcul, pour moi, c'est des opérations. Parlons d'opérations. Celles que Perec fait, par exemple. Cette part d'inconnu face à l'objet qu'on est en train de construire et à la liberté qu'on veut acquérir, qu'on désire acquérir au milieu de la partition, parce qu'on sent qu'on est en train de s'ennuyer soi-même et alors, à fortiori, d'ennuyer l'auditeur, ce qui est quand même assez grave quand on est compositeur. Alors, je reviendrai aussi à une chose dont on a parlé ici avec Oscar et puis même Unsung l'autre jour. On a parlé de l'hétérogénéité. Moi, l'idée de prendre un peu de liberté par rapport à ce que je me fixais depuis des années est venue du fait que j'ai acquis l'idée qu'il était bon de travailler avec des objets totalement différents qui n'avaient pas de rapport entre eux automatiquement. Même si ce ne sont pas des objets, comme je l'ai dit l'autre jour pendant l'entretien avec Claude Samuel, ce ne sont pas des objets si différents que ça et que la jeune génération va bien plus loin dans l'hétérogénéité du matériau. Je suis d'une génération où on prenait encore ça avec des pincettes et on faisait plus attention que vos générations qui avaient acquis une plus grande liberté par rapport à l'avant-garde dont j'ai hérité. Et c'est vrai que cette notion d'hétérogénéité remet en question, je l'ai dit et je le répète parce que ça me semble important, d'ailleurs Oscar en a parlé aussi, remet en question la façon de travailler pour un compositeur, son rôle. D'une certaine manière, le compositeur n'est plus quelqu'un qui va développer un matériau préexistant, qui a déjà, comme la série par exemple. Imaginez que Webern disait « quand j'ai trouvé mes 12 sons, ma pièce est écrite ». C'est une phrase qu'il a écrite. Aujourd'hui, on ne pourrait plus dire ça. C'est-à-dire que ce n'est pas le matériau qui va nous permettre de dire qu'on fera une pièce cohérente. Ce n'est pas un matériau cohérent qui fait une pièce cohérente. Un matériau incohérent peut faire une œuvre cohérente. Mais ça, à mon avis, ça révolutionne presque le sens du travail d'un compositeur, car il est obligé d'avoir un genre de méta-réflexion sur les matériaux qu'il est en train d'utiliser et les fondre et les tordre pour qu'ils deviennent quelque chose qui aille dans une seule direction et que cette trajectoire soit respectée. Et je vous jure que si on peut dire que c'est du discours, ça, mais c'est pas du discours, parce que dans la pratique de la composition tous les jours, on peut mesurer cette chose-là. On peut mesurer. C'est-à-dire, et si vous faites de l'électronique, vous vous rendez bien compte que cette chose-là existe à tout moment. Travailler avec des matériaux électroniques, c'est une expérience qui oblige à essayer de faire en sorte que ces matériaux convergent. Et on n'a pas les matériaux qu'on utilise quand on travaille dans l'électronique, ne sont pas automatiquement des matériaux d'une cohérence, comme les pitchs, les hauteurs, les notes, les rythmes, etc., qui font partie d'un vocabulaire plus ancien. Je voudrais parler aussi de la liberté stylistique, qui fait partie aussi de ce même chapitre. On a joué une pièce l'autre jour à l'orchestre, au concert d'ouverture. On a joué une pièce de moi qui s'appelle Faunus, qui est une pièce complètement bizarre dans mon parcours, parce que je voulais vous en parler, vous en dire deux mots, pas m'attarder là-dessus, mais je trouve que c'était bien comme introduction, puisque si vous étiez là, vous avez pu l'entendre. C'est une pièce à la fois qui semblait postmoderne et légère, et je l'entends comme ça, moi, et à la fois qui est une pièce qui m'a donné beaucoup plus de travail que beaucoup d'autres œuvres qui me semblent plus cérébrales et réflexives. Tout ça parce qu'en fait, c'est une pièce à contraintes redoutables. C'est-à-dire que je me suis mis des contraintes permanentes à partir d'une œuvre qui est celle de Debussy, le prélude à l'après-midi d'un faune. C'est une pièce qui était une commande d'un flûtiste, Benoît Fromanger, qui est un flûtiste très fameux, et qui voulait faire un CD, un enregistrement avec le prélude à l'après-midi d'un faune, un commentaire de ce prélude. Évidemment, le commentaire est trois fois plus long que le prélude, donc il y a un problème. Et puis, des pièces de musique de chambre, la flûte, alto et harpe de Debussy. Puis, je devais écrire des pièces pour flûte. Le projet CD n'a pas eu lieu parce que vous savez que les CD, ça ne marche plus. Mais en tous les cas, la pièce s'est faite. J'ai eu très peur d'écrire cette pièce. Et à la création, je n'ai jamais eu si peur. J'ai jamais eu si peur parce que je me suis dit, je suis en train d'écrire quelque chose qui m'oblige à une certaine forme de liberté que je n'ai pas l'habitude de prendre. Cette liberté, c'est de prendre déjà le texte d'un autre, l'orchestration d'un autre, puisque toutes les formules orchestrales sont tirées quand même de Debussy, l'effectif d'un autre. Là, j'ai pris l'effectif du prélude à l'après-midi d'un faune, à part le synthétiseur, et la flûte qui était normalement dans l'orchestre et devant, elle est soliste. Et donc, je me suis carrément collé dans une enveloppe qui n'est pas la mienne. Et alors, à la fois, c'est une grande liberté, à la fois, c'est une contrainte. Là, on se retrouve dans un genre de système qui est terrible. Je me suis senti contraint partout pendant les 6 mois où j'ai écrit cette pièce. Et à la fois, dans une grande liberté, dans le sens où j'entendais dans ma tête autre chose que ce que j'avais l'habitude d'entendre quand je compose. J'entendais d'autres objets sonores. Et à la fois, je dois vous dire que cette pièce, je l'ai écrite avec Open Music tout le temps pour tout ce qui est harmonique. J'ai travaillé avec des fondamentales virtuelles, des compressions de spectre, etc. Tout l'appareillage spectralopithèque et spectral en tous les cas. Et donc je ne me suis pas amusé, je ne me suis pas senti dans un travail de liberté totale, au contraire. Là j'étais vraiment entre ce que décrit Gérard Griset, je me sentais pris entre la contrainte permanente et le fait qu'il fallait délirer parce que je voulais que le flûtiste finisse par gueuler sur scène, qu'il crache ses poumons, etc. Donc il y avait un genre de contradiction permanente dans cette pièce. Et c'est par rapport à d'autres pièces de moi qui sont beaucoup plus proches de moi, parce que Faunus c'est pas une pièce proche de mon travail habituel, j'ai eu très très peur à la création. Alors je voudrais vous en passer deux petits extraits très courts pour vous juste vous dire un peu comment la contrainte peut intervenir dans quelque chose qui paraît vraiment une pièce sympathique à écouter, notamment à la fin de la partition. J'ai des partitions là, si vous voulez, on peut les faire passer. À la fin de la partition, vous avez une grande descente de tout l'orchestre, presque chromatique. En fait, elle est en micro-intervalle. Et en fait, c'est simplement une extension du thème du faune de Debussy, qui est le fameux chromatisme que vous connaissez, qui va du do dièse au sol bécard. Et puis les corps derrière font chakatakatata, katakeyakatsakatakeyakata, zatakeyakasa, pompipfe, pompfa, sa, sa, pom, etc. Ils descendent dans le grave comme ça. Et ces corps, qu'est-ce qu'ils jouent? Ils jouent tolilédadadan, délodélodélodélodélodélodélodélodan. Et cette chose-là, c'est dolélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélodélod là-dessus. Et c'est un genre de pièce ultra thématique, pas du tout amusante à composer, et qui donne l'impression d'un genre de pièce relativement débraillée où je me suis amusé à jouer avec les codes. Et donc, je trouve assez amusant de faire ce type de travail très thématique et très contraint dans une pièce qui n'apparaît pas comme telle. Je vous passe juste l'exemple pour vous remémorer si vous étiez là ou pas là, d'ailleurs. Merde, ça commence mal.
Thank you.
etc. On va être concurrencé par le rock, là, non, à côté, tout à l'heure. Là. Autre type de contrainte qu'il y avait dans cette pièce, c'était essayer d'instrumenter par règle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce programme qui n'existe plus, malheureusement, qui s'appelle Virtual Orchestra, qui était un programme qui était développé par les musiciens de l'ensemble recherche à Freiburg. Et c'est un programme qui permettait de simuler des orchestrations. Alors, avec tout ce que ça suppose de ratage, puisque simuler le niveau réel d'un instrument, l'amplitude réelle d'un instrument, c'est difficile avec des haut-parleurs. Mais néanmoins, on pouvait imaginer des configurations instrumentales un peu particulières. Et là, dans cette pièce-là, j'ai imaginé que l'orchestre, par moment, sonnait comme un multiphonique de flûte. Et donc, j'ai instrumenté des multiphoniques de flûte. Pour la petite histoire, un multiphonique de flûte, j'ai arrêté très vite de faire cette chose-là parce que c'est un timbre très pauvre. Je sais qu'il y a une flûtiste parmi nous, elle va me gronder. Mais la flûte est un instrument, comme le vibraphone, qui est un instrument très peu riche en harmonique, donc plutôt proche de la sinusoïde que du violoncelle. Et donc, quand on analyse ce genre de son, on tombe sur des mondes pas très intéressants. Du coup, on se retrouve avec une instrumentation très légère et très bizarre, parce qu'on est obligé d'inverser les rapports instrumentaux, etc. Je vous fais écouter ce que ça donne dans une partie de la pièce. En fait, le flûtiste joue des multiphoniques, l'orchestre lui répond, et ce jeu de questions-réponses en fait, n'est qu'une analyse et resynthèse des multiphoniques qui vient de jouer. Virtuel ici maintenant, modulation de fréquence, il y a tout l'arsenal là. La modulation de fréquence est ici. Non, c'est pas bon. Etc. Donc, ce qui m'intéressait là, c'est pas tellement de m'enquiquiner à analyser un multiphonique de flûte, mais plutôt d'essayer de trouver des règles pour instrumenter différemment. Et que la flûte et l'orchestre se retrouvent dans un genre de monde instrumental, enfin, dans un genre de monde de timbre assez commun. Pour la petite histoire, c'est vrai que ça donne des idées d'instrumentation très bizarres. Notamment, ça oblige l'orchestre à jouer en micro-intervalle, mais en écoutant le modèle. Je m'aperçois que ça se passe toujours assez bien, ce passage-là. Alors, il y a beaucoup de quarts de ton dans les accords que vous entendez. Simplement parce qu'ils écoutent le modèle qu'est le flûtiste, ils essaient d'imiter. Et dans cette pièce-là, qui est assez difficile à jouer, j'ai peu de problèmes d'exécution en général. C'est jamais facile, mais parce que le flûtiste émettant beaucoup de choses qui sont reprises par l'orchestre, l'imitation se fait naturellement. Donc ça, c'est un cas typique de machin qui marche, alors que j'avais très peur que ça ne marche pas. Voilà pour cette pièce dont je voulais juste rappeler un peu l'histoire, parce qu'on l'a jouée il y a quelque temps, et que c'est une pièce, justement, stylistiquement, qui m'a posé de gros problèmes. Avais-je le droit de toucher à Debussy ? Chaque fois qu'on joue la pièce, je me dis « pauvre Debussy, pauvre Debussy ». Je voudrais vous parler d'un autre exemple maintenant, c'est ce qu'on entend dehors, ça ? Ça va, les exemples sonores, vous les entendez quand même ? Bon, ça va. Sinon, on remet 4 dB de plus et on va les vaincre, ces salopards qui jouent du rock. Je les hais. Et alors, l'exemple que je voudrais vous passer fait partie d'une pièce qui s'appelle « À mesure ». Et à la fin de cette pièce, il y a une grande section très lente qui est très spectralisante. Et j'ai fait un processus qui était très, très, très chiadé, très, très calculé, impeccable, très précis, magnifique, tout marchait très bien. Je peux vous le décrire en deux secondes, je vais essayer de faire un petit dessin pour pas qu'on perde de temps. Ah oui, mais alors je peux pas prendre. Il faut que je prenne le micro avec moi, comment ça se passe? Non, alors, ne vous tracassez pas, je vais le décrire. Ne vous tracassez pas, je vais le décrire. Imaginez une mélodie virtuelle non jouée dans le grave du registre. Elle est non jouée, cette mélodie. Jouée ou non jouée, on s'en fout. Elle est bouclée, elle est jouée plusieurs fois. Et à chaque itération de cette mélodie, chaque note de cette mélodie est modulée par des fréquences modulantes, si bien qu'à chaque nouvelle itération de cette mélodie, à chaque nouvel passage de cette loupe, on obtient des agrégats de plus en plus complexes, de plus en plus chargés, et tout était fait pour qu'on ait une trajectoire qui parte de l'extrême grave et que le spectre se tende plus on allait dans l'aigu. En gros, on avait une forme que je peux dessiner de cette façon-là. Dessus. Bon, c'était l'inverse, dans l'autre sens, pardon. Comme ça. On n'a rien pour essuyer ici. Ça, ce sont les modulantes. Et à chaque note, à chaque point de ma mélodie, vous m'entendez là, non?
Oui.
À chaque note de la mélodie, ici, eh bien, on obtient, par modulation, des objets qui vont grossir avec des différentiels quelquefois, etc. Et donc à la fin ici, on se retrouve avec un objet. Voilà. L'idée de ça, c'était de faire un parcours non linéaire à partir d'une mélodie qui est un genre de mélisme. Et voilà, ce processus-là, il marche, c'était très chouette, j'étais content de moi, je voulais une tension qui allait vers l'aigu, et puis je l'ai instrumenté, je crois, de façon pas trop barbare. J'étais assez fier de moi, très content. Mais une fois que j'ai écrit ce truc-là, je me suis dit, mon Dieu, ce que c'est emmerdant, cette musique. Vraiment, il y a quelque chose qui colle pas là-dedans. Je me dis, il n'y a pas d'exception, c'est lisse, c'est un processus lisse. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Il se fait que dans cette partition, quelques pages avant, il y a un genre de modulation de tempo qui finit sur des octaves, des ré à l'octave entre joués par le piano. Octave très aiguë, pendant que tout le petit ensemble tourne avec des loopings, etc. Et cette partie-là, je me suis dit, mais ce qu'il faudrait, c'est que la mémoire marche. Il faudrait qu'on se dise, dans ce processus mou qui est à la fin, il y a quelque chose qui vient de le déranger. Et qu'est-ce qui pourrait le déranger sinon quelque chose qu'on connaît déjà? Que quelque chose de ma mémoire, de celle de l'auditeur en l'occurrence, vienne se perturber le dernier processus pour dire on est à la fin, mais on se rappelle encore de ce qu'il y a eu avant. Comment je pourrais faire cette chose-là? Alors ce que j'ai fait, j'ai rajouté, mais de façon très arbitraire, un processus sur celui-là, avec des octaves sur des ré comme ça. De plus en plus serrés et qui viennent rendre la chose de plus en plus tendue, et vraiment très tendue. Ça finit un peu comme les noces de Stravinsky d'ailleurs à la fin, avec la crotale, les octaves et tout, on me l'a dit, j'ai pas fait attention. Et alors, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est de me dire, j'ai utilisé un matériau simple qui était avant dans la partition, mais je suis retourné en arrière et j'ai rajouté la crotale dans la partition, dans la partie d'avant, pour typer comme un signal. On n'a pas le temps aujourd'hui parce que c'est des conférences courtes, mais j'aime beaucoup l'idée de signe, de signal en musique. Le signe, c'est quelque chose de très, très fort sémantiquement. C'est déjà un objet formé pour moi dans la composition. Le signal, c'est juste un objet qui rappelle. Le signal, c'est le panneau de la route, stop, passez, ne passez pas. Voilà. Et là, c'est un signal. Ce signal nous dit, attention, cette fin lisse, qui ne correspond pas à ce qu'on attend, elle fait vraiment partie de la partition. Et il fallait relier ces choses-là. Et donc, je vous fais écouter l'exemple, et je vais vous faire écouter après la façon dont j'ai transformé une section précédente pour que ces deux passages soient en relation et que la mémoire fonctionne entre les deux. Alors ça, c'est moins fort comme exemple poussé si vous voyez que... Thank you. je coupe de façon sauvage. Juste maintenant, vous faire écouter comment cet petit élément qui est... Alors là, je prends volontairement un élément très simple de mémoire, parce qu'il y a des exemples bien plus compliqués dans ma musique, mais j'ai pris un exemple simple pour qu'on se mette d'accord sur ce que je suis en train de dire. Voilà comment cet élément reprend est reconnu comme un flashback à l'envers par l'auditeur avant, une fois que j'ai retravaillé à l'envers, si vous voulez. Je vous le passe maintenant. Là, vous avez un petit passage très court, vous entendez les mêmes octaves, avec le même piano, la même crotale, le même système, ça passe très vite. Mais quand, je vous assure que quand on écoute la pièce dans la foulée, ça suffit pour se mémoriser cette chose-là, parce que sur scène, ça fait beaucoup de bruit, et on s'en rappelle très vite. Alors ça me fait penser à une chose, parce que là, c'est un élément très, très court à reconnaître, mais en fait, puisqu'on parle de nos amours littéraires depuis quelques jours entre nous, amis compositeurs, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, bon, il y en a beaucoup d'ailleurs, mais il y en a un livre, c'est La Montagne Magique de Thomas Mann. Et il y a une anecdote dans la Montagne Magique qui est absolument formidable. Je vous rappelle un peu le contexte. Le héros s'appelle Hans Castor, puis il va partir au sanatorium. Et avant, Thomas Mann nous parle de sa jeunesse. Et c'est très long, les récits qu'il y a avant. On ne comprend pas toujours pourquoi il nous raconte tout ça. Et notamment, il y a à l'intérieur des récits sur Hans Castor jeune, quelque chose qui est fascinant. Il dit, Thomas Mann raconte qu'il est au lycée, à l'école donc, et qu'il est plus ou moins amoureux d'un garçon. Comme dans Thomas Mann, l'homosexualité est toujours très latente, on ne sait jamais comment si elle est complètement assumée ou non. Là, il est adolescent, il se pose la question de savoir s'il aimera cet homme, ce garçon ou pas. Ce garçon est plus grand, il a les cheveux blonds, il est très beau, il a les yeux bridés et il est un peu une sorte de protecteur de Hans Castorp qui est jeune à l'école et qui a besoin de cette icône, de cette image magnifique d'amour comme ça. Et ils ne se disent pas grand-chose, sauf que au moment de quitter l'école, le grand qui a fini ses études lui donne une petite boîte dans laquelle il met quelques cheveux blonds et il offre la boîte à Hans Castorp. Et ce qui est assez amusant, enfin ce qui est assez intéressant, c'est comment ce que raconte Thomas Mann à ce moment-là est complètement hors sujet par rapport à l'histoire du livre. C'est-à-dire, il nous raconte ça comme une anecdote. Il met un temps fou à décrire le garçon dont il est amoureux. Pourquoi il le décrit avec tant de temps, avec tant de détails, pourquoi il prend tant de temps pour le décrire, on ne comprend pas. Et le livre est épais, c'est deux volumes. En général, c'est édité en deux volumes. C'est un gros bouquin. Et Hans Castorp, malade, part au sanatorium. Il est malade des poumons. Et qu'il se passe des discussions interminables là-bas. Et puis un jour, il est au restaurant, et là, une dame entre. La dame s'appelle Madame Chaucha. Au moment où elle ouvre la porte, Thomas Mann écrit « Elle est blonde, elle a les yeux bridés ». Donc, en une seconde, il évite toute la description de ce nouveau personnage qui entre dans le livre. La description est faite. On connaît Madame Chaucha. On sait que ce sera son amour. On sait exactement à quoi elle ressemble, puisque la description était faite 150 pages avant. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup dans la littérature, notamment dans Ulysse de Joyce. Il y a une description avec une petite mère renarde et ses enfants, et la mort d'enfants, qui est une relation aussi avec une mère et ses enfants dans Humain, cela. Et ces genres de flashbacks, qui ne sont pas des flashbacks, des flashbacks à l'envers, puisque mais c'est cette façon qu'on peut raconter une chose bien en avance, décrire un objet qui n'est pas l'objet final, pour qu'au moment où on tombe sur l'objet final, on comprenne tout. J'adore ça dans la composition. Je pense que c'est un jeu sur la mémoire. Alors, je déborde un peu le cadre de la contrainte et de la liberté, mais en tous les cas, je parle composition. Je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Et dans ce livre-là, c'est un exemple absolument prodigieux de pouvoir décrire quelqu'un qu'on a déjà décrit 200 pages avant, 150 pages avant. Deux mots. Elle est blonde, elle a les yeux bridés, on a compris. On a tout compris. Je voudrais vous parler justement à propos de flashback. Je fais l'enchaînement avec une pièce qui s'appelle Flashback que j'ai écrite, il y a une partition là, et où là je me suis amusé à mélanger Ce que nous faisons peu, compositeurs, souvent, parce que enfin, moi, je ne sais pas comment vous fonctionnez, je ne vous connais pas encore beaucoup, mais moi, j'ai toujours tendance à penser que, même quand je prends des objets différents et hétérogènes, j'ai tendance à les mettre dans une machine qui fasse que je les traite avec les mêmes techniques de travail. C'est-à-dire, je peux avoir des objets différents, mais si je les traite avec des techniques spectrales, eh ben, je vais les analyser, les spectraliser, etc. Et j'ai du mal à me passer de ces techniques que j'ai apprises, parce qu'elles me rassurent certainement, et puis elles me permettent d'obtenir le son que je souhaite, etc. Et j'ai remarqué d'ailleurs, dans les entretiens que j'ai eus déjà, que quand je parle de relations harmoniques, des choses comme ça, souvent vous avez des cuisines plutôt, quelquefois modales, ou des systèmes à vous, des systèmes d'échelle particuliers, etc. Ce qui est très bien d'ailleurs, que chacun ait sa cuisine, c'est la meilleure des choses. Que chacun ait son système et son système d'engendrement du matériau, je trouve ça vraiment parfait. Et moi, j'ai eu du mal à mélanger d'une certaine manière des systèmes de travail dans une même partition. Et dans Flashback, je me suis amusé à une chose comme ça. Il s'agit d'une passe à caille, vraiment d'une passe à caille. Donc il y a une boucle qui tourne comme ça en rond, qui sert d'ostinato à cette passe à caille. Et je vais vous la faire écouter d'ailleurs, vous allez comprendre. Juste la boucle. Ah, shit. Voilà. Cette boucle, elle tourne comme ça un long moment. Elle est instrumentée, doublée, beaucoup doublée, comme dans la technique classique de l'orchestration. Et en même temps, chaque note de cette boucle, que vous ne l'entendez pas tellement d'ailleurs là-dedans, moi je ne fais pas attention, et sert de fondamental à des modulations de fréquence. C'est-à-dire qu'en fait, chaque note est un spectre, mais joué par des cordes très divisées ou des bois qu'on entend peu. Enfin, en tous les cas, il y a tout un travail d'orchestration de chaque note de la boucle, si bien que ça leur donne une consistance. Alors déjà, il y a un premier truc, c'est qu'on a une boucle qui tourne en rond. Cette boucle, c'est quelque chose de totalement arbitraire. J'ai décidé de faire tourner une boucle. Je ne sais pas d'où elle vient, je m'en fiche, à vrai dire. Dessus, l'instrumentation de chaque son est un spectre, mais qui ne doit pas être entendu comme tel, qui est juste là comme un jeu d'orgue pour épaissir le timbre qu'on est en train de jouer, comme on fait de l'électronique d'ailleurs. Et puis par là-dessus, je voulais qu'on ait vraiment le jeu de la passe à caille, avec des phrases qui partent dans tous les sens, que tout ça s'excite et finisse dans un grand climax. Et là, je me suis posé la question de savoir, mais puisque déjà j'utilise un matériau qui est spectral pour grossir les notes de chaque note de ma boucle, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on comprenne qu'il se passe un autre discours en même temps, un discours excessif qui va aller de plus en plus dans le délire, justement. Et on parlait du délire tout à l'heure, mais ce travail qui est fait en même temps, vous allez l'entendre, c'est quelque chose qui est totalement jeté, où les instruments se jettent de plus en plus rapidement. Et là, je me suis dit, mais n'ayons pas peur, imaginons que je colle à cette technique spectrale des modes, un travail modal. Donc je me suis servi de deux modes que j'ai carrément collé par là-dessus, en me bouchant les oreilles, littéralement, en faisant ça, en me disant que ce qu'il y a en bas et qui tourne et qui est harmonisé comme des modulations de fréquence, je colle par-dessus un autre niveau, et ce niveau-là, il n'a rien à voir avec la première technique. Et en ça, d'ailleurs, vous avez tous lu Le style et l'idée, j'imagine, de Schoenberg. Schoenberg dit quelque chose de très sympathique, il dit « J'ai appris de Wagner l'art de superposer des choses qui n'ont rien à voir entre elles ». Il parlait des leitmotifs, mais il y a plus que ça. Et c'est vrai que cette façon, moi j'ai fait ça souvent comme expérience dans l'écriture, c'est-à-dire de mettre en place des structures très perceptibles pour elles-mêmes, de coller des choses qui n'ont rien à voir, et l'oreille fait ce travail de discrimination de façon horizontale, c'est ce qui se passe là, et je vous fais écouter l'exemple. Alors ça, c'est le premier degré de liberté par rapport à une écriture. Est-ce que quand on écrit, on doit avoir un seul système générateur du matériau, ou est-ce qu'on peut travailler avec plusieurs types d'engendrement? Je crois qu'on peut le faire sous certaines conditions. Et vous verrez que le processus qui paraît réglé, au bout d'un moment, est complètement déréglé par une fanfare qui déballe, un genre de big band que tous les cuivres jouent et qui fonctionne encore avec un genre de technique, avec des basses complètement calculées à l'oreille dans le grave, qui sont doublées piano et contrebasse comme dans la musique jazzy, et qui n'a rien à voir avec la choucroute, comme on dit en français, qui n'a rien à voir avec le contexte. C'est-à-dire que ça a tout d'un coup un genre de cassure brutale et on change de monde stylistique. Et en fait, là, on n'a pas le temps d'écouter l'exemple en entier, à la fin de ce grand processus, par mouvement contraire, on se retrouve au début de la partition, La pièce s'appelle Flashback parce que c'est tout un travail comme ça de retour en arrière, un peu ce que j'expliquais sur la montagne magique, c'est-à-dire de choses qu'on a entendues avant, qu'on récupère après, etc. Donc dans des processus comme ça, je crois qu'en fait, il faut acquérir un genre de très grande liberté par rapport aux opérations qu'on a mises en place au début. D'ailleurs, il y a tout un travail spectral très méticuleux, puis par là-dessus, je salis volontairement tout ce travail-là en mettant des choses qui ne correspondent pas du tout à ce travail-là. Et dans ces cas-là, moi personnellement, je me fais une petite guerre, mais c'est toujours une victoire de se dire « je n'obéis pas à mes foutues règles, je n'obéis pas qu'à ces règles-là, il y en a d'autres qui viennent d'ailleurs ». Je vous joue l'exemple. Là, j'ai coupé le process, mais quand on arrive à la CD centre de flûte, etc., on est déjà dans la musique qu'il y a eu de 100 pages avant, exactement dans le bouquin de Thomas Mann dont j'ai tiré grand parti. Donc, en fait, c'était tout un jeu comme ça dans cette pièce-là. Donc, en fait, l'idée qu'il y a là-dedans, c'est de, on peut faire une coupure, une cassure, cut comme ça. On t'a parlé du montage hier. Là, c'est exactement la technique, là. C'est-à-dire une technique de montage total. Je monte une image qui n'a rien à voir avec le contexte, ce big band qui écrit à part. Et il se déforme petit à petit pour revenir à la musique initiale. C'est la musique qu'il y a eu 50 pages avant, enfin 30 pages avant, j'en sais rien. Et j'aime beaucoup ça. De plus en plus, j'utilise ce genre de choses pour lutter d'abord contre les processus linéaires qui ont été engendrés par les techniques spectrales. Donc, si on se laisse emporter par ces processus-là, on est toujours dans la prédictibilité, la prévisibilité maximale. Donc, en cassant, en coupant, rien n'empêche de retourner là on était avant. Mais en attendant, on crée des épisodes et une dialectique permanente entre ce qu'on attend et ce qu'on attendra que de façon plus éloignée, en attendant qu'on attendra de façon différée. C'est exactement ça. C'est différer l'attente par un processus ou un événement qui, lui, n'a rien à voir avec le contexte. Et c'est un peu ça qui m'intéressait là-dedans. Je vais vous parler maintenant très vite, je vais essayer d'avancer, mais on a encore on a bien 20 minutes devant nous, d'une pièce qui me tient à cœur, qui s'appelle « Tour à tour ». C'est une pièce d'orchestre sur laquelle je travaille et qui est une pièce d'orchestre qui va durer une heure. Donc c'est un peu prétentieux de faire une pièce d'orchestre d'une heure, mais je crois que je vieillis et j'ai envie de me frotter à des formats un peu gros, un peu longs. Parce que j'avais pas écrit des longs formats dans mon catalogue, j'ai toujours été plutôt du genre lent. Et j'ai envie d'écrire des choses plus jeté, avec moins de temps devant moi, un peu sous la pression, pour voir ce qu'il en sort, et ce qui fait partie aussi de la recherche de liberté que j'ai en vieillissant, de me dire, oui, c'est bien beau les calculs, mais il faut aussi jeter des choses et voir ce qui reste en jetant les choses. Alors, je ne vous conseille pas ça, vous êtes jeune, vous devez souffrir tous les jours à écrire des pièces, minutieusement. Mais en vieillissant, je pense qu'on doit accepter que même dans la musique contemporaine, on a un acquis qui est peut-être de l'ordre de l'acquis qu'avaient les musiciens du XVIIIe siècle, qu'il y a des choses qu'on sait et qu'on n'est pas obligé de recalculer, il faut admettre. J'ai eu beaucoup de mal à admettre cette chose. On a un acquis, profitons-en. Alors, il faut faire très attention parce qu'on peut se ramollir, surtout à passer 50 ans, c'est difficile, je trouve. Mais il faut quand même admettre, se faire confiance un peu, ce que j'essaie de faire. Alors, tour à tour, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui passe d'une chose à l'autre tout le temps. Donc, c'est un petit côté concerto pour orchestre dans le sens où les groupes sont tour à tour les protagonistes, les registres changent tout le temps, les sections sont tour à tour très violentes et très diaphanes, et à la fois là, on est dans la liberté et juste après dans la contrainte. Et donc ce que je me suis fixé au départ, une chose que je dois dire, c'est que pour tout ce qui est harmonique, je suis très français là-dessus, je vous prie de m'en excuser, comme Tristan Murail, comme Griset, comme toute cette école-là, comme qui aussi autour de moi, comme Jean-Luc Hervé, que je connais bien, etc. On a une genre d'obsession du calcul harmonique permanent. C'est-à-dire, il n'y a pas une pièce que je commence sans open music pour calculer des paquets d'agrégats, etc. Bon, ça fait partie d'une culture... C'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. J'ai l'impression de me couper un pied ou une main si je ne pars pas d'objets harmoniques que je connais très bien. C'est aussi handicapant. Ça peut être gênant. De toute façon, toute habitude est gênante. Donc, j'essaie aussi de m'en passer. Mais ce n'est vraiment pas simple dans le système où je me trouve. Et à propos de tour à tour, je voudrais vous faire écouter le début qui est fait... Enfin, toute la pièce a été conçue. L'idée, c'est de faire une pièce avec un truc le plus minimal possible. Il y a un genre de pattern ou de gestalt, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui a un peu cette tête-là. Voilà, un genre de wave... Une onde qui peut s'appliquer à l'instrument, enfin à des mélodies, mais aussi à des genres de mouvements plus globaux de l'orchestre. Voilà. Donc cette onde-là, elle est à peu près partout. Et avant, je travaillais avec des patterns, j'ai pas le temps d'en parler là, mais des patterns de calcul absolument affreux, je travaillais avec le computer tout le temps. J'ai fini par me dégoûter de l'écriture en me disant, travaille donc avec des choses plus souples. Donc en fait, cette chose-là est très souple parce qu'elle peut s'appliquer à tout ce que vous voulez. C'est une wave. Et vous verrez qu'avec Open Music, j'ai amené un exemple, on va voir comment ça fonctionne. Le début de la pièce, je voudrais vous le passer parce que la première petite section de la pièce paraît tout à fait improvisée. En fait, elle est faite d'éléments très clairs, ce sont des dessins. Et dès la seconde section, Open Music prend le relais. Et vous verrez, ce qui est assez amusant, c'est que la section Open Music semble beaucoup plus libre que la section libre, puisqu'elle semble assez romantique. Elle a une certaine forme de lyrisme. Et à la création, on m'a dit, oh, j'aime beaucoup cette section. C'était la section Open Music. Et les gens m'ont dit, mais t'étais très lyrique, là. C'est l'ordinateur qui a calculé. Puis on pourra en reparler. Je pense que quand on programme des patchs pendant quelques temps, on peut demander à l'ordinateur d'écrire sa propre musique. Il doit savoir le faire. Si on est assez malin avec ça, si on se fait aider. Moi, je ne suis pas très fort en informatique, mais je travaille avec des gens qui le sont bien plus que moi. Et on doit arriver à retrouver son monde avec le monde des patchs. Je vous passe le début de tour à tour. Il y a une partition qui traîne, si ça vous intéresse. We'll be right back. pour ça, on peut dire que dans la pièce, c'est ce qui représente le max de liberté. C'est-à-dire, il y a juste des morphologies, des gestes qui sont en totale contradiction d'ailleurs avec l'esprit harmonique qui règne dans cette pièce, puisque tout le matériau harmonique est plutôt très spectralisant. Et cette pièce durant une heure, 25 minutes plus tard, ou je ne sais pas combien de temps après, ou même plus que ça, 35 minutes plus tard, il y a une petite partie que j'ai déjà écrite pour un orchestre allemand qui s'appelle Préludium, parce que ce sera le prélude de la dernière partie de la pièce. Je me suis amusé à faire une chose que je n'avais jamais faite. J'ai mis la partition devant moi, de tour à tour 1, donc cette partie-là, et j'ai varié en gardant exactement la même structure rythmique et les mêmes mesures et les mêmes agrégats. J'ai varié pour faire une musique qui a exactement la même couleur, mais qui n'est plus la même musique. Je vous le passe, c'est assez court le début, mais vous reconnaîtrez sans reconnaître. En fait, c'est cette idée. Quand on arrivera 40 minutes plus tard, on se dira « Ah, on connaît ça » et on ne saura pas comment on le connaît. En fait, c'est la même idée que tout à l'heure. Si on écoute ça, on reconnaît bien qu'on est dans la même pièce, même écrite un an plus tard. Ce qui se passe, c'est que l'orchestration est d'abord plus doublée, elle est plus lourde, plus grasse, que les mouvements qui étaient ascendants sont descendants, que tous les objets qui étaient d'une certaine manière sont pris à l'envers, enfin, etc. Mais l'idée, c'est qu'on se retrouve dans le même bain et qu'on reconnaît cette agitation libre. D'une certaine manière, on se dit, bon, c'est jeté comme ça. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais c'est quand même jeté avec quelque chose, quelques objets que je me suis fixé. Et ce fameux pattern qu'on entend très clairement à la fin, « Chakoti, katin, katiko, chakoti, katiko, 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 quand ils font ça, l'orchestre, c'est le pattern qu'on entend, ça, avec l'onde que je vous ai montrée, qui apparaît là clairement parce qu'elle est jouée très rythmiquement. Et à ces espaces de liberté comme ça, où l'écriture est très improvisée, très nerveuse, j'ai voulu opposer naturellement des choses totalement contraintes. Et je vous montre ça avec Open Music tout de suite, là.
Il marche, notre micro marche ?
Oui, ça marche. C'est d'une technique à Kant, c'est génial. Regardez-moi ça. Les micros nous suivent. C'est pas beau. L'idée de ce patch, parce que écrire un patch, ça n'a pas beaucoup d'intérêt si on n'a pas envie d'en faire de la musique. L'idée de ce patch, c'était de partir de ma petite wave, là, que vous voyez, de la distribuer aux cordes, comme un canon, chacun parle l'un après l'autre, comme dans un canon classique. Et au même moment, le processus est assez long, il fait 2 ou 3 minutes. La wave va changer de forme. J'ai fait ça à la main, bon, plusieurs pièces, c'est horrible. C'est-à-dire que si vous avez un pattern qui fait ça et qu'au bout de 3 minutes, vous vouliez qu'il fasse ça en descendant, eh ben, si vous avez à gérer, je sais pas, 10, 15, 30 voix, ben, vous en sortez pas. C'est-à-dire si vous plantez au milieu, il faut tout refaire. Donc ce sont des travaux, c'est un travail que je ne veux plus faire à la main car il est horriblement difficile à réaliser à la main. Alors que là, vous le dessinez avec ce genre de patch. Alors la première chose, je sais pas si vous êtes peut-être pas tous habitués à l'ordi pour faire ce genre de choses. La première chose emmerdante dans Open Music, c'est de rentrer le rythme sous forme de fraction. Alors, j'ai rentré une croche, 3/16, une croche pointée, une croche, 1/16, une double, etc. Pourquoi on utilise des fractions, ça je vous le raconte, c'est simplement parce que quand on fait des calculs sous forme de fractions, on n'a pas ce qu'on appelle les flottants, c'est-à-dire les nombres à virgule, qui foutent la panique dans les calculs et qui, au bout d'un moment, nous trompent complètement et finissent par induire des erreurs de rythme. C'est-à-dire si vous vous retrouvez avec une valeur de 50,366, que vous ajoutez 40,332, à la fois tous vos rythmes sont faux. Si vous travaillez avec des fractions, c'est très très pénible à rentrer, mais ça vous garantit une certaine forme d'objectivité numérique. Donc ça, ça fonctionne. Ce petit chiffre-là indique qu'on finira par 1,24. 1,24, c'est une fraction, c'est la double en sextolée. Le patch est fait pour qu'à la fin de ce processus, on finisse toutes les voies finiront sur ce rythme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en même temps, le patch est fait pour que on parte de valeurs longues, celles que je vous ai données, enfin plus ou moins longues, et que la machine fasse en sorte, le programme fasse en sorte qu'il enlève tout le temps, chaque fois que la wave apparaît, en boucle, en fait, elle apparaît, à chaque fois, chaque note, chaque valeur de ce pattern perce une double en sextolée jusqu'à ce qu'à la fin, il ne reste plus que des valeurs, un continuum sonore. En fait, c'est à la fois la valeur qui est enlevée à chaque fois et c'est la valeur qui restera à la fin. Donc, voilà comment ça marche. Ça, c'est pour le petit calcul de départ. Ici, il y a un réservoir, évidemment, qui est indispensable dans ce genre de processus, qui est un réservoir de... Pardon. Il est où ? Qui marche mal ce Mac. Ah, ça doit être là-dedans, tout simplement. Voilà. Ici, il y a évidemment un travail préliminaire qui est un peu emmerdant à faire, c'est calculer tous les paquets d'accords dont on aura besoin, où les patterns vont se construire. Ils vont être puisés là-dedans. Ça, je ne sais plus comment j'ai calculé le processus, je ne sais plus, ne me demandez pas. C'était un pattern avec des modulations de fréquence, je ne sais pas trop quoi. J'ai oublié, et ça n'a pas de grande importance pour la démonstration que je veux faire. Une fois que ça est fait, vous avez ici, ici dans les offsets, vous avez, ça c'est les entrées de chacune des voix. Vous imaginez bien que si on fait entrer une voix à 2 douzièmes, ça représente 2 croches de triolet. Puis il y a une voix qui rentre à 7 24e, 7 doubles de sextolet, 11 24e, 14 24e. C'est-à-dire, là, les valeurs sont assez rationnelles, mais des fois, ça donne des valeurs totalement rationnelles. Et écrire un canon qui dure 3 minutes, avec des valeurs déjà qui commencent, une voix commence à la double en quintolet, l'autre à la double en triolet, l'autre à la croche, vous n'en sortez pas. Vous ne pouvez même pas faire des équivalences rythmiques. À la main, c'est totalement impossible, il faut oublier. Alors, le problème de la machine, c'est la façon dont il va faire la quantification, la quantisation de tout ça. C'est-à-dire qu'un ordinateur, c'est con, et ça ne comprend pas vraiment comment optimiser les données numériques qu'on lui donne. J'ai fait des expériences d'ailleurs très intéressantes avec l'IRCAM. Je voulais aller loin là-dedans, ça ne les a pas intéressés, ils préfèrent l'électronique, mais je voulais continuer à travailler en tant qu'expert, enfin comme un expert qu'on paye pour faire un travail, je l'aurais fait gratuitement d'ailleurs, comme un expert qui reçoit des chiffres, des données numériques, et on en fait des rythmes. Je suis devenu très, très rapide avec ça, parce que je travaille avec ça, avec des .333, .742, j'ai tout de suite que ça donne un triolet, après je sais que ce sera ça, et une valeur de quintolet, de septolet. Bon, c'est un peu comme les fréquences, on finit par jongler avec ça. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que en tant que compositeur, si on sait où on va se servir de ces valeurs numériques pour faire des rythmes intelligents. Parce qu'on a un genre de... On sait ce qu'on veut. Si on accélère, on va pas faire une transcription de ces valeurs de façon idiote. Si on ralentit non plus, on va faire une vraie transcription. Si vous retrouvez avec 0.5, 0.45, 0.5, c'est presque des croches. Mais si vous voulez aller vers les quintolets, vous allez favoriser le 0.45. Vous irez vers le quintolet, voilà, etc. Toutes ces bêtises-là. L'ordinateur ne sait pas le faire. Alors là, dans le système des contraintes, l'ordinateur est idiot. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on retrouve la wave de ma pièce, qui est ici, et qui est numériquement codée ici. Et en fait, tout le début, les cordes vont commencer avec cette formule qui est la gestalt de la pièce, le pattern de la pièce, pour finir par un truc qui fera quelque chose qui est descendant. Voilà. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est pas la fin qui m'intéresse. Une fois de plus, c'est ni le début ni la fin qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est au milieu, c'est ce qu'il y a là, ici, par là. Voilà, toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'au milieu, il va se passer quelque chose qui est quelque chose que je ne peux pas contrôler et qui est une certaine forme de liberté qui est le résultat d'une grande contrainte. C'est-à-dire que je vais même vous avouer un truc. Dans cette pièce, j'étais tellement pressé que je n'ai pas pu retoucher tout ce que je voulais. Et l'ordinateur a eu un bug. Il s'est planté. Il a inversé des valeurs. Sans toucher le processus, il a inversé des choses à l'intérieur des patterns. Et je trouvais que c'était vachement bien, parce que j'ai écouté sur l'ordinateur, je trouvais que ça sonnait très très bien. Je lui ai dit, mais c'est moins mécanique que prévu. Et j'ai relu, et c'est une erreur. Et alors, il n'y a pas d'erreur harmonique, il n'y a pas d'erreur de durée du process, mais il y a des interventions de valeur qui ne sont absolument pas correctes. Et j'ai gardé, surtout j'ai gardé comme on garde ça dans l'électronique, quand vous tombez sur un timbre intéressant. L'ordinateur s'est planté, mais il était plus intelligent que moi, sans le faire exprès, j'ai gardé le truc. Et voilà, et donc ça a marché. Alors, je vous donne un peu les résultats. Pour ceux qui connaissent, évidemment, ça n'a rien d'intéressant. Pour ceux qui connaissent moins, il est lent cet ordinateur, je suis désolé, c'est une vieille machine celle-là. Voilà, donc le résultat c'est celui-là. Alors évidemment, il y a tout à réécrire, puisque ce qui me donne comme valeur, c'est donner ça à un orchestre, vous allez voir. Alors il n'y a pas de quart de ton ici, j'avais fait exprès, parce que les cordes jouant cette chose-là qui va aller de plus en plus vite, en quart de ton, ça aurait été horrible, ingérable. Donc j'ai tout passé en demi-ton. Ça c'est la première partie du processus. Et alors, ce que je voulais vous dire, c'est ça c'est la partie contrainte. Alors, quel est l'espace de liberté qu'il y a là-dedans ? Aucun, vous me direz, sinon qu'il va faire de la musique que moi je l'aurais écrite, si j'avais le temps, parce que là, c'est vraiment du temps. Mais je me suis dit, ce qu'il fallait, c'est qu'il y ait une couche qui vienne encore gêner, comme le premier exemple que je vous ai fait écouter tout à l'heure avec les crotales. Je me suis dit, ce qu'il faudrait, c'est qu'on lisse ce processus qui est vraiment trop compréhensible et qui est vraiment trop prédictible, prévisible. Et donc, j'ai fait en sorte que toute l'harmonie au-dessus... J'ai fait un calcul qui était assez long, d'ailleurs. J'ai regardé toutes les notes communes qu'il y avait d'un agrégat à l'autre et j'ai fait des genres de tuilages de notes communes pour lisser le process, de manière à ce qu'on se rende plus compte qu'on est dans un process, mais qu'on est plutôt dans un bain de vapeur, comme ça, un bain assez agréable, qui n'est pas du tout difficile à écouter, qui est vachement soft, en fait, et qui finit par un genre de musique répétitive. On est à l'inverse de la première partie que je vous ai fait écouter. Mais on est dans la même musique, on est dans les mêmes matériaux, mais on est complètement ailleurs. Je vous fais écouter l'exemple. Toute cette descente-là, on ne s'est pas rendu compte que petit à petit, notre pattern de départ, il s'est complètement tordu pendant 2 minutes 30. Et ce qui est relativement difficile à faire à la main. Je l'ai fait, je ne veux plus le faire. C'est, la machine résout mieux le problème que nous. Dans un cas comme ça, c'est assez amusant parce que je ne pense pas qu'on entende vraiment que l'ordinateur est tout fait. Parce qu'il y a un genre de souplesse. Alors, quelle est la part de liberté aussi dans un processus comme ça? C'est surtout l'écriture de l'articulation. J'ai passé énormément de temps sur l'articulation des cordes. Je n'ai jamais passé tant de temps sur l'articulation des cordes. J'avais tellement peur que le processus soit raide que j'ai travaillé un temps fou sur chaque attaque, chaque legato. Le copiste était fou parce que je changeais tous les jours. Je lui disais, ça ne va pas du tout. Je ne voulais pas qu'il y ait un saut intervallique qui fasse qu'on sente le saut. Je voulais que ce soit lisse, que tout ça soit rond comme dans un aquarium. Et donc, c'était le gros travail de liberté, très passionnant parce que j'avais là une matrice. Et après, je m'amusais à faire de la musique avec une matrice qui était déjà faite. Et puis bon, le travail de la liberté qu'il y a là-dedans, c'est quand même... j'ai choisi la trajectoire. Et la trajectoire, c'est quand même la plus grande liberté qu'on a quand on écrit de la musique. Après, le reste, le détail, c'est plus ou moins intéressant, à mon sens. Mais ça dépend de sa philosophie à l'égard de la composition. Alors, je serais tenté... Il est déjà 21h20. Vous devez être fatigué. Je serais tenté de continuer sur cette pièce parce que... Je vous en dis deux mots. La seconde section, c'est celle que je préfère de la pièce. Elle est faite sous forme de 8 éléments qui sont des gestes, des gros gestes orchestraux. Et en fait, c'est une autre forme de liberté, celle-là. Ces gestes sont au départ calculés de façon volontaire et tout à fait libre. Et petit à petit, tout ça fait une durée. Et cette durée, je la compresse avec un index. C'est-à-dire, la première fois que ces 8 gestes apparaissent, voilà la durée. Deuxième fois comme ça, troisième fois comme ça, quatrième fois comme ça, cinquième fois comme ça. Et à l'intérieur, chaque geste aussi subit des compressions. Si bien qu'on part de quelque chose qui est très timbral pour finir sur quelque chose qui est de l'ordre de la fanfare un peu. C'est-à-dire que les gestes n'ont plus le temps de s'exprimer et donc les cuivres jouent de plus en plus vite. On finit par une musique qui n'a plus rien à voir. Et puis petit à petit, j'enlève des notes et on finit par un accord seul. C'est-à-dire un long processus qui dure des minutes et des minutes comme ça. Ou par raréfaction, on n'obtient plus rien, et par compression. Ça, c'est une chose que j'ai appris, que je fais relativement souvent, c'est-à-dire me donner au départ un espace de liberté immense, en mettant en place des objets. C'est une musique très gestuelle, moi qui n'étais pas habitué à ça. Donc je me laisse aller avec des gestes. Par exemple, les cordes font... C'est un geste, je fais un petit dessin. Et puis, mais une fois que ces gestes sont écrits, j'en fais un genre de pattern très violent, et là, ça devient radical. Alors, c'est l'inverse de ce que je racontais tout à l'heure. Je ne pars pas de quelque chose de radical que je salis. C'est-à-dire, je rends très, très cérébral une structure au début qui était totalement arbitraire. Et j'aime bien cette idée de prendre une structure qu'on a découverte comme ça, par hasard, parce qu'elle nous plaisait. Ça revient à ce que je disais un peu sur les objets hétérogènes qu'on peut prendre et leur imposer nos lois. Et c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous avez vous voulez écouter l'exemple. Je ne veux pas vous embêter. 5 minutes, mais je sais que vous êtes crevés. Faites-moi signe quand vous en avez marre. Voilà, hein, dites-moi. Je ne veux pas vous épuiser. Elle en a marre là-bas. Au revoir, madame. C'était Anne. On peut avoir confiance dans les amis. Elle est adorable. Hein, ça. Donc, je peux vous passer cet exemple. Vous verrez chaque nouvelle section qu'on commence par un genre de son de trombone saturé. Et au niveau du timbre, je suis assez content de cette section-là parce qu'elle correspond à ce que je cherchais. Alors, il y a des éléments très clairs. Vous verrez, il y a des table blocks qui réapparaissent globalement. Il y a des gestes vraiment qui sont de l'ordre du signal. On parlait du signal tout à l'heure, qui sont des signaux. Et des signes, ce sont des situations musicales un peu plus chiadées. Je vous passe ça. C'est pas trop fort en bas, ça va? Ça va? fin du processus. Donc en fait, au départ, on a vraiment une structure très très simple qui, par compression, n'a plus le temps de s'exprimer, dans lequel j'enlève le contenu et après il nous reste un accord, tout simplement. Voilà un peu comment ça se passe. Et alors là, c'est un genre de semi-liberté, puisque la première structure, elle est complètement intuitive. Mais chaque fois que je la répète, je m'en tiens au schéma de cette structure et je l'indexe. Je lui mets des index de compression en permanence, comme dans un calcul de compression spectrale. Mais sauf que ça s'applique à toute la structure et non pas simplement à un objet, un accord ou une chose de cet ordre-là. Donc c'est un travail, en fait, qui part de la liberté et qui se contraint au fur et à mesure. Et puis à la fin du processus, la liberté revient dans le moment, au moment où j'enlève les choses je n'ai pas besoin, et on finit par avoir cet accord tenu. Et je voudrais juste finir non, je ne vais pas passer un autre exemple de ça, parce que je voudrais vous parler d'autre chose très très rapidement. On a encore j'ai commencé vers 15, on a peut-être encore un petit quart d'heure, non? Vous allez tenir le coup, ça va? Dites-moi, ça va? Je voudrais vous parler d'une pièce pour voix, parce que je n'ai pas encore parlé de voix ici. La pièce que je fais donc sur Pérec, sur l'œuvre de Pérec, ce sera avec Donatienne. Et Donatienne, j'ai déjà travaillé avec elle sur une pièce qui s'appelle Cantus. Là, la version que j'ai sur moi, là, c'est la version de la création qui était celle de notre ami de Accroche-Note, Françoise Kubler. Et c'est une pièce qui est un hommage à Pérec. Je vous dis deux mots de cette pièce. J'ai écrit la pièce en grande partie avec Open Music, vraiment en très très grande partie. C'est ma pièce, une de mes pièces les plus open musiquées. Et une fois que j'ai calculé tous ces canons, ces systèmes de mélisme, etc., j'ai écrit les paroles a posteriori, dessus. Carrément dessus. Et le texte fait référence quand même à la façon dont Pérec, non pas écrit, c'est pas l'écriture de Pérec, mais en tous les cas, il y a une écriture topologique, c'est-à-dire la chanteuse, en chantant, décrit ce qui se passe autour d'elle. Elle dit, elle explique les processus, elle explique les opérations tout le temps. C'est un texte non poétique. D'ailleurs, je voudrais la prochaine fois qu'on le fasse avec un subtitle pour qu'on comprenne vraiment tout ce qui est dit, parce que des fois, on comprend pas, c'est idiot. Il faut vraiment très bien comprendre ce qui est dit pour que ce soit drôle à la fois. Parce que cette façon de surenchérir sur ce qui se passe autour d'elle entraîne aussi une certaine forme d'humour par moment. Et je voudrais vous, là il se passe une chose aussi très importante, c'est-à-dire que j'ai passé mon temps entre la liberté et la contrainte de la même façon, c'est-à-dire des épisodes totalement simples qui sont des gestes qui vous font penser à la pièce d'orchestre, là c'est écrit juste avant, et puis des canons très très serrés où la chanteuse s'inscrit dans la texture. Je vous passe un extrait très vite. C'est terrible. Finit par avalanche de sons privés de sens et de narration. En fait, au fur et à mesure, elle décrit tout ce qui se passe. Et il y a des situations qui sont assez drôles par moment, parce que quand elle a fait sa petite conférence aussi, notre amie chanteuse Donatienne, elle a dit qu'elle était jamais... qu'elle se laissait jamais prendre par le texte. Et je lui ai dit l'autre jour, vous l'avez entendu, qu'un moment où le seul moment où un peu poétique du texte que j'ai écrit, c'est prendre son envol, regagner le champ, Il s'agissait du chant harmonique. Et en fait, la chanteuse, dans sa phrase, prenait son envol harmonique et sortait du cadre harmonique fixé. Et à ce moment-là, elle s'est mise à chanter, comme toutes les chanteuses qui chantent ça, « Prendre son envol, regagner le chant », et elle s'est mise à roucouler comme une chanteuse. Voilà. Et donc, quand elle dit que le texte ne la pousse pas à ça, elle a fait comme tout le monde. Donc, c'est assez drôle. Et là déjà... à la fin, on entend bien que la chanteuse avalanche de sons. Dès que les mots commencent, une avalanche, c'est pas un terme, c'est un terme normal, mais qui a déjà une connotation un peu plus avalanche de sons. C'est un peu plus poétique que ce qui est dit avant. On sent très bien qu'elle a envie de mettre du pathos dans l'affaire. Et moi, je la retenais toujours. Je dis, mais une fois qu'elle est sur scène, on peut plus rien faire. Et pendant les répétitions, je dis non, reste froide, reste, dis le texte froidement comme ça. Mais c'est absolument impossible avec la voix. Il faut admettre les débordements. Mais j'aime beaucoup ce que fait Françoise Kubler parce qu'elle fait ça avec une intelligence et se mêle dans la. Voilà. Et un autre exemple plus intéressant, celui-là, techniquement. Là, je m'adresse plus à vous musicalement, plus techniquement. Je me suis dit, il y en a marre que la voix suive toujours dans cette pièce les processus de l'ensemble, du petit ensemble. C'est un genre de Pierrot Lunaire, l'ensemble derrière. Je me dis, comment on pourrait faire en sorte que tous les deux aient leur vie, mais se retrouvent à des endroits, des points clés. Et donc, j'ai fait une chose, la voix est traitée avec l'ordinateur comme un genre de grande interpolation, c'est-à-dire elle part d'une phrase et puis elle navigue comme ça. Et puis, l'ensemble a sa vie aussi, mais avec des harmonies qui sont calculées, comme je vous ai montré tout à l'heure dans Open Music. Et ce que j'ai fait, c'est-à-dire cette interpolation mélodique qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a au-dessous, je l'ai superposée à l'ensemble, et puis j'ai fait un genre de mapping, j'ai regardé un peu, j'ai comparé les hauteurs qu'il y avait entre les deux, et j'ai fait en sorte... en descendant d'un petit quart de ton, en remontant d'un demi-ton, en descendant ou en montant à peine les hauteurs que chantait la chanteuse, de la faire entrer dans le champ harmonique de l'ensemble, auquel elle n'appartient absolument pas au départ. Et petit à petit, rythmiquement, j'ai bougé aussi les valeurs qu'elle chantait, de manière à ce qu'elle rentre dans la danse rythmique que vous allez entendre, de l'ensemble. Et en fait, c'est une façon à moi de me dire, la voix, je la traite en dehors, parce que j'ai envie de l'entendre chanter ce que je veux, et l'ensemble, il a sa vie, un jour, ils vont se rencontrer. Et ça, c'est un espace de liberté vachement intéressant, parce que pour un mec comme moi, pour un compositeur comme moi, qui a tendance à toujours tout calculer verticalement, parce que je suis français, les Français calculent verticalement, harmoniquement, on a une vieille tendance post-ravelienne et Debussy, c'est terrible. Et le fait de penser que la voix est horizontale, et que l'orchestre, l'ensemble, lui, fonctionne verticalement, c'est un genre de dichotomie qui m'a beaucoup amusé à faire. En fait, je suis très content de ce passage-là, parce qu'elle chante une mélopée, en fait, une mélopée idiote, la chanteuse, comme ça, et elle finit par entrer dans le jeu des gens qui l'entourent. Donc, je vous le passe, cet exemple. C'est terrible, non, vous entendez un peu... C'est le bordel, non, un peu.
Thank you.
voilà, dans un exemple comme ça, en fait, la voix au départ n'entretient aucun rapport avec le dessous. Et petit à petit, je m'arrange pour qu'elle participe au discours des gens qui l'entourent. Puis vous avez, il y a des petites parenthèses instrumentales comme ça qui sont de l'improvisation totale à partir des objets harmoniques que j'ai. Alors là, c'est carrément du jeter totalement pour donner un peu d'aération à un processus qui est par trop linéaire. Je finis avec deux exemples parce que là, ça devient dur, mais on va rivaliser, je vous promets, j'ai un exemple qui va rivaliser avec leur musique. Deux petits exemples pour finir qui sont là de l'ordre de la liberté stylistique dont parlait Oscar tout à l'heure, hier, quand tu disais ben, dans Cache à Face, j'ai eu très peur, je me suis mis à utiliser la musique populaire. Moi, j'ai joué du rock, j'ai joué du funk, j'ai joué de la musique, j'ai joué de la guitare électrique, j'ai une Stratocaster longtemps, donc j'ai joué du jazz, c'est pas en professionnel, mais j'ai joué longtemps avec des gens plus forts que moi parce que j'écrivais de la musique pour eux, donc ils étaient meilleurs instrumentistes que moi. Et c'est vrai que j'ai toujours une frustration à pas continuer à travailler avec ça. Et donc, il y a dans certaines de mes pièces un genre de retour à... Voilà. Et j'ai eu une commande d'un ensemble qui s'appelle l'ensemble Nickel, qui est un ensemble israélien. Si vous en entendez parler, écrivez pour lui. C'est un ensemble très jeune, absolument magnifique. Et le guitariste est un génie. Il joue comme Mike Stern, mais de la musique contemporaine. C'est un fou furieux. On peut lui écrire tout ce qu'on veut, il l'écrit. Et donc, j'avais prévu plusieurs exemples, je vous en ai fait écouter simplement un. La pièce est très contrainte, il y a plein de travail avec Open Music, etc. Et au milieu, j'ai pété les plombs. J'avais envie d'un genre de délire. J'avais envie que mon ami Yaron Dutch, guitariste, éjacule. Passez-moi l'expression, mais c'était vraiment ça. Donc, du coup, il y a, à un moment donné, un genre de lâchage total de climax et qui fait magnifiquement bien. Je vous passe l'exemple parce que c'est assez rigolo, en fait. Oh, shit. Dernier goût de bloc à la fin qui n'était pas prévu. Moi, c'était un objet en métal absolument terrible. En Israël, ils n'avaient pas l'objet en métal. Ils m'ont fait clouc. Après un horrible solo comme ça, j'étais très, très déçu au concert. Stock. Voilà. Donc, dans cet exemple-là, en fait, ce qui est marrant, c'est que le solo, il est fait avec tout le matériau qu'il y a dans la pièce avant. Mais simplement, l'instrument m'a poussé à me dire, bah, finalement, on fonce. Cet instrument est typé culturellement, je le prends pour ce qu'il est. C'est hendrixien comme façon de penser la guitare électrique et je ne regrette pas de l'avoir fait. Donc c'est une pièce que je vais continuer à écrire pour eux dans ce sens-là. Et pour finir totalement, une pièce qui paraîtra plus conforme à notre musique contemporaine, je voudrais juste finir avec une pièce pour violoncelle dont je ne vais pas parler parce que c'est la pièce dont je vous ai parlé au tout début qui me dépasse un peu. Je l'ai analysée depuis, je sais comment elle est faite, mais ce sont juste des gestes. Il y a trois petits accords que j'utilise horizontalement, qui sont des accords spectraux sans intérêt. J'allais dire à la con, c'est pas très français, mais des petites choses, des objets sans grand intérêt. Et en fait, la pièce a été écrite, et je crois que ça aide bien à délirer, elle a été écrite, la pièce, pour un violoncelliste que je vous conseille, qui s'appelle Alexis Descharmes, qui est un homme fantastique, qui joue du violoncelle comme ce n'est pas permis, comme Yaron à la guitare que vous venez d'entendre. Ce sont des gens à qui on peut demander des choses absolument insensées, et ils font ça très, très simplement. Donc voilà, cette pièce pour moi est devenu un mystère dans le sens où, après, je sais pas si, je n'en parle pas, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si elle est bien, pas bien, c'est, j'en juge pas. Mais pour moi, elle fait partie de quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire de tout jeter comme ça. Voilà. Ça s'appelle, en fait, la version totale s'appelle D'un trait. Et là, écoute, on écoute juste un extrait qui était fait à la création. Et je finirai là-dessus. C'est où ? C'est un phénomène, ce garçon. Merci de votre attention.